19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah, quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Bonjour la France, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Si vous venez de nous retrouver, on va démarrer cette semaine en ce lundi 31 janvier. Demain c'est février. Que le temps file. C'est incroyable quand même, hein. Le temps file à une vitesse impressionnante. Bon, pour démarrer cette semaine, qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh bien, plein de choses. Revenir sur la primaire populaire qui a eu un véritable carton ce week-end. On va en parler puisque, évidemment, celle qui ressort avec une belle victoire, c'est Christiane Taubira. On va tenter de décrypter la chose et les raisons, évidemment, pour lesquelles ça a suscité aussi et ça a ironisé pas mal de choses. Certains se sont permis d'ailleurs d'ironiser sur sa victoire. Est-ce de la jalousie ou est-ce parce qu'elle pose problème, Christiane Taubira? Bon, on en parlera tout à l'heure avec nos débatteurs et notamment avec l'invité qui sera avec nous, Ahmed Lawedj, du PRG justement. Ensuite, les trois sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur la primaire, mais aussi également, nous reviendrons notamment sur les EHPAD. Aïe, aïe, aïe. On parle de maltraitance auprès des vieux. Bon. Alors, vous savez que les familles, ça y est, d'ores et déjà, ont décidé de porter plainte. Sauf que la pression médiatique ne retombe pas, les amis. Tout le monde est sur le pied de guerre parce que les actions de mauvais traitement dans les EHPAD continuent d'affluer dans tous les sens. Le patron, ça y est, il a été limogé. Il est quoi, expresso? Hein, le mec, on lui a pas laissé le temps, hein, on lui a dit, tu prends tes affaires et tu te barres. Hein, on lui a même, je vous jure, c'est vrai, on lui a pas laissé le temps de la réflexion, ni de se défendre. C'est-à-dire que, on ne plaisante pas avec ça. Ensuite, après, vous savez, il y en a une qui appelle de tous ses voeux un débat solennel, d'accepter un débat tête à tête. C'est Pécresse face à Macron. Bon, est-ce que l'un et l'autre ont le même calibre? Est-ce que l'un et l'autre, d'ailleurs, dans le dosage, Pécresse est en position de force pour se dire « J'ai la posture présidentielle, je peux débattre avec Emmanuel Macron ». Eh bien, nous allons tenter d'analyser tout cela avec vous tout à l'heure. Et puis, un numéro standard, vous le savez, vous le connaissez, mais je vais vous le rappeler. 01 53 48 3000. Notez-le bien. Pourquoi? Parce que durant toute l'émission, vous nous appelez quand vous voulez partout en France. Je vous attendrai pour interpeller nos débatteurs, pour nous livrer votre témoignage, pour échanger avec des débatteurs, notamment comme vous le faites si bien, ou tout simplement pour commenter un des trois sujets que je viens de vous proposer. 01 53 48 3000. Il est simple, franchement. Les informés, vous le savez, c'est en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et je vais vous saouler. Mais pourquoi je dis ce terme? Saouler exprès, un peu de vulgarité. Je vais vous saouler parce que dès aujourd'hui, là, le 31 janvier, j'ai décidé, j'ai mûri tout cela ce week-end, je l'ai tordu dans tous les sens. Je vous promets, je vais vous marteler en permanence d'aller vous inscrire sur les listes électorales, mais surtout, d'appliquer et d'accomplir votre devoir civique. Votez pour qui vous voulez, ça j'en ai rien à secouer, mais il y a bien une chose sur laquelle vous allez me trouver sur votre passage, en tout cas sur les ondes, partout en France, dans les quartiers populaires, vous allez m'entendre tous les soirs vous dire « Poussez vos enfants, allez vous-même vous inscrire sur les listes électorales. » Il n'y a que ça qui fonctionne, les chers amis. Il n'y a que ce rapport de force. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Moi, je vois le taux d'abstention, il est trop fort. Je vois aussi le nombre de personnes dans les quartiers populaires qui ne sont pas inscrites encore dans les listes électorales. Ce n'est pas normal, chers amis auditeurs. Ce n'est pas normal. Donc, je passerai ce coup de gueule tous les jours et je vous dirai, allez, poussez tout le monde, votre entourage, parce que c'est très important. Je ne sais pas si vous mesurez l'impact que vous pouvez susciter sur le rapport de force que vous pouvez inverser. Inverser la vapeur. Vous connaissez ce fameux dicton? Vous pouvez, vous, dans les quartiers populaires, inverser la vapeur. Je vous le dirai tous les jours en permanence. C'est parti.
53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Qu'est-ce qu'il y a là, dirait Kaya?
Non, j'avais l'impression d'entendre Macron quand il disait je vais emmerder les non vaccinés.
J'ai pas dit emmerder moi.
Non, mais t'as dit
je vais vous saouler.
Je vais vous saouler, bon.
Mais c'est bien, c'est dans le bon terme.
Non, mais l'esprit, je pense que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire
c'est
voir
chose.
Les dernières personnes qui n'étaient pas inscrites ou alors conscientes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous prendre la tête.
Ouais. Non, voilà. Mais moi je suis pour. Il faut conscientiser les Français.
Ouais, je vais prendre la tête à
tout le
monde.
Il faut les responsabiliser.
Tous ceux qui nous écoutent, je vais leur prendre la tête pour leur dire. Prenez conscience. Surtout c'est dans le sens positif.
Non,
dire.
Comme tu l'as dit, surtout dans les quartiers, parce que c'est là où il y a le plus d'abstention sur les territoires
mais
français.
Mais grave.
C'est ça qui est violent.
Non, mais ça devient insupportable. Ça y est, il faut réveiller les consciences.
Oui, mais voter, c'est pas suffisant, tu le sais très bien.
Il faut voter. C'est la première arme.
Mais moi, je suis plus pour il être citoyen au quotidien.
Voter. Il faut voter. Citoyen au quotidien, pour moi, ça arrive en second plan.
Non,
allez
pas,
voter.
Pas du tout, parce que.
Allez voter.
Contrairement
allez
à ce qu'on dit aux Français depuis toujours, voter. Je pense que c'est du blabla, c'est pour
voter.
Faire beau, c'est de la décoration
non,
politique.
Je te jure, je ne crois pas.
Moi, je préfère une personne
crois-moi
qui ne vote
Nadia,
pas
je,
et qui
je vais vous dire
tous
chose,
les
Nadia.
Jours qu'une personne qui
Nadia,
vote simplement pour les élections.
Demain, admettons, allez, faisons de la projection fiction. Demain, vous avez tous les quartiers populaires qui votent, les politiques vont trembler. Tu ne peux pas me dire le contraire.
Mais j'en suis conscient parce que localement,
voilà.
Sur les élections municipales ou des élections locales, ça se joue comme ça.
Allez, ne prenons pas de retard. Bien sûr, c'est pour ça que je dis cela. L'invité du jour.
Les informer, l'interview.
L'interview, c'est avec Ahmed Laouedj, le président du mouvement radical de gauche, sur le département du 93. Bonjour Ahmed Laouedj.
Bonsoir Adil, désolé de ne pas être parmi vous, malheureusement j'ai eu un petit souci de santé. Donc,
écoutez, bon rétablissement, pourquoi ça arrive?
Voilà.
Bon rétablissement, on est d'accord qu'il faut pousser nos auditeurs à aller s'inscrire sur les listes électorales.
Sûr, mais complètement, vous avez entièrement, et tu as entièrement raison Adil, c'est qu'aujourd'hui, c'est ou la politique s'occupe de toi, ou c'est toi qui t'occupes de la politique.
Il faut inverser la vapeur, il faut qu'ils sentent les politiques,
et c'est vrai que les quartiers
vont peser désormais.
Il y a en plus pas très loin en Seine-Saint-Denis, il y a une élection hier partielle à Bondy.
C'est pas normal, ça aussi à Bondy.
60%.
Non mais c'est pas normal, les bons.
Voilà. Donc Bondy, malheureusement,
on a dit qu'il y a à Bondy.
Et moi je serais.
La gauche n'est pas passée parce que peut-être que.
Adil,
manque de mobilisation.
Alors, il y a un manque de mobilisation, mais il y a aussi le fait aussi, c'est que des fois, il y a des partis politiques, et même moi étant chef d'un parti politique aujourd'hui, si on parle de la primaire populaire, je pense que ça a été une surprise pour tout le monde qu'il y ait un nombre important de gens qui se sont inscrits à cette primaire populaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les anciens partis politiques font en sorte que rien ne s'est passé hier soir. Mais si hier soir il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a des citoyens, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des citoyens engagés qui veulent que ça change. Et donc à partir de là, c'est pas en les mettant, je dirais, de côté que ça va avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Christiane Taubira, pour en parler, a fait une belle chose.
Eh ben parlons-en justement. Voilà. Parlons-en. La primaire populaire, justement, vous l'avez vécu, vous étiez en plein dedans. La primaire, un véritable succès, justement. Christiane Taubira qui sort de cette victoire, grande gagnante de la primaire populaire. Alors, qu'est-ce que cela, quel enseignement doit-on retenir de cette victoire primaire populaire, mon cher Ahmed Laouedj?
Là, c'est clair, c'est qu'aujourd'hui, ça vient du bas. Ça vient pas d'en haut. Aujourd'hui, on nous bassine matin, midi, soir des formations politiques que j'en fais partie aussi, qui font en sorte de dire oui, ça sera comme ça et pas comme ça. Non, aujourd'hui, il y a un engouement de citoyens qui veulent se prendre en main.
390 000 votants, hein.
Voilà, presque 400
000. C'est énorme. C'est énorme.
Plus que la primaire de LR et plus que la primaire des Verts. Mais bon, quand on voit les chiffres, c'est vrai que on le voit, les citoyens veulent l'union et l'union aujourd'hui a fait que l'union se porte sur son nom, c'est Christiane Taubira. On voit les scores, 49% pour elle, 22% pour Jadot
Quoi justement le fait qu'elle devance Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo qui termine très loin derrière, ça veut dire quoi ça justement?
Ça veut dire que les gens veulent vraiment que la gauche soit au deuxième tour aux élections présidentielles. Enfin les gens, les citoyens de la primaire populaire qui se sont engagés, qui veulent pas voir une gauche écologiste, sociale, se retrouver face à une extrême qui arrive de plein fouet. Et c'est vrai que là, je suis entièrement d'accord avec vous de d'inciter tous les jours aux gens de s'inscrire, mais pas que de s'inscrire, mais de voter, d'aller voter, de voter pour qui que ce soit. Moi, je prêche pas pour ma paroisse ce soir. Je prêche pour qu'à un moment donné, dans ce pays, à un moment donné, les idées nauséabondes qui sont de plus en plus, je dirais, mises en avant. On voit encore Bruno Maigret.
Je suis d'accord.
Un raciste fasciste qui vient encore à la télévision parler du soutien à Éric Zemmour.
Oui, bon, on voilà. peut pas se plaindre et d'un côté effectivement ne pas bouger. Je vous l'accorde.
C'est sûr que si on bouge pas, c'est vrai qu'on se retrouvera et comme je le dis, hein, quoi qu'il arrive demain, c'est un boulevard pour Emmanuel Macron. Quoi qu'il arrive, ils pourront pas nous dire demain. Alors peut-être que c'est vrai que ça c'est le seul candidat qui aujourd'hui plaît, mais il faut savoir qu'il y a quand même 35% de voix et la campagne des présidentielles commence, 35% de personnes qui vont voter à l'extrême droite.
Oui, complètement d'accord avec vous. On va revenir juste sur les sites histoires de suspense qui a duré pendant tout le week-end. Bon, on va le dire, c'est dans la symbolique hein, qu'elle a gagné Christiane Taubira. Est-ce que, évidemment, cela ne changera rien dans les enjeux qu'attendent donc les Français, les électeurs, concernant donc cette gauche? Elle est autant éclatée, divisée aujourd'hui. On peut le regretter, Ahmed Lawedge. Finalement, que le fait que Christiane Taubira l'emporte, est-ce que ça traduit quelque chose, notamment sur les enjeux de la gauche?
Bien sûr, tous les partis politiques de gauche et les écologistes doivent se remettre en question par rapport à ce qui s'est passé hier. Hier, c'était un tremblement de terre. On leur a mis la vérité sous les yeux. On leur a donné que des citoyens lambda pouvaient se monter en association pour pouvoir faire en sorte de dire stop aux égaux. Stop à une situation qui fait que la seule chose qui les intéresse, c'est le pouvoir, et la seule chose qui les intéresse, c'est les législatives qui vont se passer après les élections présidentielles. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez gagner la présidentielle? Vous voulez rendre les gens dans une situation qui n'est pas celle que la gauche attend, que les citoyens attendent, de justice sociale, de pouvoir d'achat? On voit aujourd'hui avec les tarifs d'essence qui n'arrêtent pas d'augmenter de plus en plus, les gens vont même en Espagne pour aller chercher de l'essence. Attends, où va-t-on? Ce que je disais aussi autrefois dans votre antenne, c'est que on a des gens qui n'arrivent même plus à se nourrir et d'avoir un troisième repas en fin de journée, oui. De pas pouvoir se aller chez un médecin. Chez un médecin, pas à l'hôpital.
Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs justement qui disent que malgré sa victoire, l'union de gauche de Christiane Taubira, elle est mal embarquée. Qu'est-ce que vous répondez à Sandrine Rousseau qui ironise sur la victoire de Christiane Taubira, Jadot notamment qui ironise sur le fait de... Qu'est-ce que vous dites de tout cela,
La seule chose, c'est qu'on peut pas, d'un revers de médaille, dire que les 400 000 personnes ou les 400 000 personnes qui ont voté, on les met de côté. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est à eux de prendre conscience, de savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays, et qu'à un moment donné, s'ils veulent rester la bérésina des partis de gauche et des écologistes dans ce pays, qu'ils continuent à aller dans le mur. Mais ce qu'elle veut, Christiane Taubira, c'est surtout rassembler. C'est pas, elle veut pas dire, voilà, ça y est, c'est moi la meilleure, c'est moi qui va être devant. Non, elle veut rassembler. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, ça va peut-être être difficile. On a encore peut-être une lueur d'espoir. Moi, c'est ce que je souhaite aujourd'hui.
Anne Hidalgo, elle dit que c'est une candidature de plus.
Non, mais Anne Hidalgo, c'était la première, quand même, à vouloir être dans la primaire populaire. Quand Jadot a dit non, elle a dit Alors, c'est ça la politique. La politique, il faut aller dans l'arène, il faut aller au combat. Il y a des idées, c'est un projet politique. On est face à des Français qui où on propose un projet politique qui permet de dire, voilà, on gouvernera en fonction de ce projet. Alors, vous nous suivez ou vous ne nous suivez pas. C'est pas de dire oui, une fois oui, une fois non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hidalgo est dans une situation où je pense qu'il y a certains personnes qui sont aujourd'hui, on voit aujourd'hui le maire de Marseille qui va soutenir Christiane Taubira, on voit la présidente PS de Bourgogne, je crois aussi, qui va la soutenir.
C'est ça.
Bon, Ben voilà, donc on va aller jusqu'au bout, j'irai du processus, et on verra le 15 février. On voit aujourd'hui dans les sondages qu'elle est à 5% avec égalité avec Yannick Jadot. Bon voilà, on voit aussi qu'il y a une situation où les parrainages vont arriver, et c'est là qu'on va voir si les gens peuvent se présenter ou pas.
En amour, Ahmed Lawedge, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent?
Moi, j'ai envie de dire que bravo déjà pour cette primaire populaire, bravo pour le fait que Christiane Taubira a su faire en sorte de pouvoir mobiliser.
On va la recevoir, Christiane Taubira.
Je dirais cet engouement citoyen populaire. Et en plus, plein de jeunes, parce que moi, j'étais hier soir au point éphémère à Paris, où je voyais quand même une population que j'avais jamais vue dans les meetings. Une population jeune, une population dynamique, qu'on voulait. Et c'est ça qui est important, c'est quand même l'avenir de la France.
Mmh. Ben merci Ahmed Lawedge. Vous êtes évidemment en charge du PRG sur le département du 93, le président. Voilà. Donc.
Merci beaucoup Adil,
bon rétablissement, mon cher Ahmed.
Et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir sur Beurre FM, car vous êtes quelqu'un qui, je pense, va prôner le fait que les gens doivent aller s'inscrire et voter.
Ah bah ça, écoutez, ils vont m'entendre tous les jours, je vous le dis. Tous les jours, j'aurai pendant 30 secondes un petit mot sur le fait d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Je veux simplement qu'on inverse la vapeur. Vous voyez ce que je veux dire, Ahmed Lawedge? Oui, que les politiques comprennent que les quartiers populaires peuvent compter, que ça peut faire basculer l'échiquier politique. Et ça... Effectivement, la donne change et elle peut changer.
On l'a vu en 2012 avec François Hollande.
Exactement.
Ou dans des quartiers populaires où ça ne votait pas. Et ce jour-là, ça votait à 87, 88, 90%.
Ouais. Après, c'est un autre débat, la déception, effectivement. Merci Ahmed Lawedge. Allez, on va lancer la pub. Merci. On se retrouve dans une poignée de minutes avec Ahmed Lawedge, j'allais dire. Avec Nadir Kaya, avec Rudy Kassi, qui seront face à face et 01 53 48 3000. Que pensez-vous de la victoire de Christiane Taubira? Est-ce que vous pensez qu'elle peut changer, évidemment, toute la dimension, la sphère politique? Je vous attends au 01 53 48 3000. Pub, et on se retrouve à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et 19h23, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est les informés en direct, en live, justement, jingle pour les auditeurs.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Eh bien, je vous attends partout en France, venir me dire qu'est-ce que vous pensez de la victoire de Christiane Taubira qui sort gagnante de la primeur populaire. Est-ce que vous pensez qu'elle a un potentiel pour notamment venir bousculer cette présidentielle, l'élection présidentielle? Qu'est-ce que vous en pensez? 01 53 48 3000. Je vous attends. Vous, tout de suite au standard Yanis, vous attend donc au 01 53 48 3000. Je vais accueillir le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Rudy Kassi qui est coincé dans les transports en commun, c'est terrible. Mais Nadir Kaya est toujours là, présent dans les locaux. Bonjour Nadir Kaya.
Bonjour Adil, bonjour à tous.
Comment ça va?
Très bien.
Ça fait un moment?
Oui, le Covid est passé par là.
Oui, ça va mieux?
Oui, bien heureusement.
Bon, tant mieux. Toute la famille va bien donc.
Merci.
Christiane Taubira, gagnante de la primaire. Vous avez suivi un petit peu la primaire populaire?
J'ai suivi un peu, mais bon, moi je suis un peu scandalisé.
Vous l'avez même vu, Christiane Taubira?
Voilà, on l'a accueillie dans les ateliers d'écriture le samedi matin par le biais de l'équipe. Donc elle est venue très sympathiquement, elle a accepté l'invitation d'Eli Aminsoum, qui est un des animateurs des ateliers d'écriture, et de Zora Oussedra aussi, qui est la collaboratrice à Banlieue Plus. Et donc on l'avait déjà rencontrée il y a très longtemps, et puis là on lui a demandé si elle voulait participer à un atelier d'écriture, sachant qu'elle a quand même... Une richesse au niveau littérature et une culture qui était quand même appréciable. Donc elle a accepté l'invitation et puis elle est venue participer à l'atelier d'écriture. Et tous les participants étaient contents de voir une personne, une femme accessible, simple et surtout très cultivée.
Surtout très cultivée. Ça, c'était Christiane Taubira. Vous avez échangé avec elle? Comment vous l'avez trouvée?
Non, moi, pas cette fois-ci, mais j'avais déjà échangé... une fois quand je l'avais rencontrée, c'est une personne que j'apprécie. Moi, je la trouve intéressante. Bon, tu le sais très bien, dit que je suis pas politisé, ni à gauche, ni à droite. Mais humainement, je la trouve très intéressante, politiquement aussi, parce que déjà, elle a du charisme. Elle est cultivée, on l'a déjà dit. Elle connaît la France à travers ses aspects politiques, son histoire, c'est aussi important. Mais humainement, je la trouve intéressante parce que, encore ce matin, sur une radio concurrente, je l'ai entendue, pour pas la citer, France Info, et je la trouve très directe. Mmh. Elle est, je la trouve franche. Après, ça plaît ou ça plaît pas.
C'est comme Poutou. Philippe Poutou.
Ouais, Poutou aussi, que j'apprécie sur,
il certains, a à en parler aussi.
Sur certains aspects. En plus, je suis syndicaliste et puis j'apprécie les gens qui mènent des combats comme ça de terrain. Mais Taubira, bon, comme je t'ai dit, je la trouve très cultivée, mais humainement, je la trouve très sincère et très directe. Et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre politiquement. Et je la trouve intéressante, voilà.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Christiane Taubira, vous, partout en France, 01 53 48 3000, je vous attends justement pour venir nous apporter votre point de vue, votre regard. Je vous attends donc en direct, ici même, le standard est ouvert. Christiane Taubira, donc gagnante de la primaire populaire, alors justement, mais son appel à l'union de la gauche, il est toujours rejeté. Franchement, la gauche a quand même du mal à accepter certaines règles. Hein. Rudy est en train de monter la saillie, je le vois. Disons-le clairement quand même, hein. il y a un problème.
Je ne sais pas s'il y a une gauche. Je pense qu'il y a des gauches, on le voit aujourd'hui, la gauche est complètement fracturée. Il y a des gauches en France, et preuve en est, sur certains moments, certains parlaient d'union et de vouloir s'unir les uns les autres. Je pense qu'ils ont eu l'occasion de le faire. Une primaire, c'est quand même important. Il y a quand même un socle de Français qui sont notamment des socialistes, qui sont ou alors de gauche, tout simplement. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les écolos sont encore de gauche, jusqu'à preuve du contraire. Je m'étonne que Jadot ne se mette pas derrière Madame Taubira, ainsi que Madame Hidalgo.
C'est une histoire d'égo.
Bah, c'est toujours une histoire d'ego.
Toujours une histoire d'ego.
Bah, c'est souvent. Mais dans ce cas de figure, je pense que c'est une histoire d'ego parce que il y a quand même 390 000 Français, notamment des gens de gauche, qui sont partis s'inscrire et qui ont voté, donc qui ont accepté ce jeu-là. Et je trouve malheureux pour cette gauche-là de ne pas accepter les résultats et de ne pas suivre, tout en sachant qu'aujourd'hui, en face, vous avez la droite qui est certes diverse, ou l'extrême droite qui est aussi présente, mais qui ont un soutien bien plus important que ceux de la gauche aujourd'hui, quand on voit comment elle est morcelée aujourd'hui.
Alors justement, on va accueillir, je crois qu'il est venu en mode vénère, Rudy Cassi. Bonsoir Rudy, comment ça va ?
Bonsoir à tous.
Ah ouais, vous êtes arrivé en âge là.
Hein. Ouais.
Vous aviez une remarque sur les transports en commun, allez-y, lâchez-vous.
Non, je vais y aller tout
allez-y.
Droit quand même.
Allez-y, non, allez-y.
C'est toujours pareil, hein, les transports en commun... Toujours un peu la même galère.
Et c'est un élu qui parle, hein.
Ouais, des pannes intempestives. Si c'est pas les travaux, c'est des pannes. Si c'est pas les pannes, c'est des gens qui se jettent sur les voies, malheureusement. C'est à déplorer, mais.
Ouais. Donc là, c'est pas la faute à Hidalgo, alors c'est Pécresse. C'est la région, là.
Bah, les transports. Non, les transports en commun, c'est pas la région, c'est l'État déjà.
Ah, c'est l'État aussi, oui. Mais...
Et par contre, la région, effectivement.
À sa part.
À sa part, mais pas sur toutes les charges des transports en commun. Effectivement, avec certains syndicats des transports, effectivement, ils essaient d'arranger les choses, mais c'est surtout l'État.
Oui, bon.
Enfin, la SNCF, parce que moi, c'est la SNCF, quoi. C'est...
Bon. Mais ça va, tout va bien.
Ça va, sinon à part ça, tout va bien.
Mais bon, bah écoutez, alors on va débattre. Là. Nadir Kaï nous a livré son point de vue concernant la primaire donc populaire. Oui. Cette victoire écrasante, justement, de Christiane Taubira. Est-ce que finalement, elle n'a pas d'enjeu hein, majeur, hein, oui. Cette victoire. Mais comment peut-on l'interpréter? Quelle interprétation, justement, peut-on lui donner concernant l'ex-ministre de la Justice?
Bah, le problème, c'est la légitimité.
C'est d'y croire, non? C'est d'y croire, peut-être?
Écoutez, en tout cas, ça dépend de la lecture qu'on donne à cette primaire populaire. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une primaire populaire? En l'occurrence, celle-ci, elle a été lancée par, je crois, des anciens élèves de Sciences Po,
oui.
pour essayer de déterminer qui serait le candidat le plus intéressant pour la gauche. Sauf qu'elle s'est imposée à des candidats de gauche qui voulaient pas en faire partie, Mélenchon y compris.
Yannick Jadot
aussi. Et Yannick Jadot.
Et Hidalgo.
Et Anne Hidalgo, entre guillemets. Pour au final, quand on regarde les résultats tels qu'ils ont été donnés, vous regardez, enfin c'est un peu comme à l'école, quoi, mention bien, mention très bien.
C'est ça. Donc,
quelque part, ça dévalorise aussi la portée de cette primaire, parce que on sent pas qu'elle incarne.
Elle a été vivement critiquée. Hein.
On sent pas qu'elle incarne quelque chose.
On parle même de pitoyable. Vous rendez compte?
On sent pas qu'elle incarne quelque chose de si sérieux que ça, sachant en plus qu'il y a des candidats qui n'ont pas voulu y participer.
Je suis pas d'accord parce que c'est méprisant de dire ça.
Non, mais
cette primaire, si elle a été organisée par des étudiants ou par des noms spécialistes ou des grands noms de la politique,
c'est un problème.
Qu'elle a plus de légitimité.
Non, pas forcément, parce qu'une primaire, d'ailleurs en plus c'est la gauche qui a emmené la primaire dans le système politique français, et ça se fait à l'unanimité de toutes les couleurs politiques. Là, c'était pas le cas. Donc après, ça donne quand même du sens au lancement de la campagne de Christiane Taubira, qui en avait bien besoin, hein, vu que effectivement dans les enquêtes d'opinion par rapport aux intentions de vote du premier tour, ça n'a pas franchement décollé. C'est quand même bien pour elle, mais le problème, c'est que ça lui donne pas une vraie légitimité. Donc finalement, à quoi ça a servi, si ce n'est à maintenir la division de la gauche?
Nadir Kaya
vis-à-vis de qui? Aujourd'hui, les Français veulent une vraie démocratie par la base.
Bah, je te réponds. Ouais. La légitimité vis-à-vis de toute la composante de la gauche qui recherche effectivement.
Mais c'est trop compliqué. La légitimité, tu l'auras jamais.
Bah voilà. Donc en fait, la primaire ne sert à rien.
Donc il a raison. La primaire ne sert à rien alors.
Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est un bon baromètre.
Alors, on écoute. Parlons-en. Prends le temps.
C'est un bon signe pour rappeler qu'aussi les citoyens de base, et notamment de la gauche ou de ces différentes gauches, qui sont quand même inscrits. Je crois qu'il y a eu plus de 390 000 votes. C'est quand même important. C'est bien plus que le LR.
400.
Voilà. 390 000.
Voilà.
Votants. Après, il y en a 460 000.
Ouais, presque un demi-million, on va dire.
Voilà. Inscrits 462 000.
Quand on fait la comparaison par rapport à l'électorat inscrit sur les listes LR. Donc ça démontre bien qu'il y a eu quand même un engouement. Et moi, je trouve que c'est quand même aussi une surprise pour Taubira, parce que même si elle s'est déclarée à la dernière minute par rapport à tous ceux qui sont déjà là depuis quelques mois,
y a un intérêt,
moi, je trouve
quand même
que ça reste quand même intéressant.
Oui, mais politiquement, ce qu'elle doit réussir à faire, c'est d'unir la gauche. Sinon, elle ne peut pas gagner.
Ça, c'est encore autre chose.
Donc ça veut dire qu'elle peut continuer à y croire à nouveau.
Ben, je ne sais pas.
La réponse, elle est là.
Oui, mais elle ne ressort pas grandie, si vous voulez, en tout cas renforcée par cette primaire. À la différence de Valérie Pécresse, même si tout n'est pas parfait à l'intérieur de la droite. Mais la gauche, déjà, accuse d'un retard important, parce que c'est déjà un parti qui ne s'est pas réformé du point de vue de son idéologie, du point de vue de ses objectifs. Elle n'a pas de programme. Christiane Taubira n'a pas de programme. Les seuls qui ont des programmes, c'est Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Sinon, le reste n'y arrive pas. Donc, dès lors, en fait, que le défi de Christiane Taubira, c'était de réussir, en fait, à créer, en fait, une composition et aussi
une dynamique
et à montrer que c'est moi qui ai gagné, donc suivez-moi, un peu comme ça a été le cas avec Valérie Pécresse. Ça, elle n'y arrive pas du tout. Le lendemain même, trois élus, donc ceux que vous avez cités, Mélenchon, Jadot et Hidalgo, critiquent déjà la légitimité de ce truc. Donc ça veut dire que quelque part, il y avait un intérêt populaire, mais malheureusement, il ne se solde pas par un intérêt politique de rassemblement de la gauche.
Messieurs, je vais vous laisser répondre, Nadir Kaya. Mohamed du 95, bonsoir Mohamed.
C'est une bonne opération.
Bonsoir Adèle, bonsoir à tes invités.
Vous nous appelez de quelle ville, mon cher Mohamed du 95?
Saint-Lois.
Allez, on vous écoute, mon cher Mohamed, à vous la parole.
Très rapidement, une analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je suis plutôt proche de la dernière prise de parole de votre invité.
Redis Cassie.
Exactement, c'est Cassie, je pense qu'elle est pertinente dans la mesure où la gauche a raté encore une fois un rendez-vous avec l'histoire, mais ce ne sera pas le premier rendez-vous qu'elle aura raté. On a toujours tendance à dire en France, et moi je suis assez d'accord avec cette analyse, c'est que l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme ou d'une femme avec le peuple français.
C'est
un rendez-vous, là, malheureusement, c'est un rendez-vous de dernière minute. Vous imaginez, à moins de 60 jours, gagner de la légitimité. La légitimité, elle a la légitimité de ceux qui l'ont désigné, mais la légitimité par rapport au reste de la population française, ce n'est pas gagné. Ça ne se gagne pas sur une personnalité, l'élection présidentielle. Il faut un programme, il faut une présence sur le terrain, il faut des réseaux.
C'est ça.
Malheureusement, la gauche ne s'est pas encore réveillée de l'apocalypse macronienne qui a atomisé l'échiquier politique.
Il est dur.
Non, mais clairement, parce qu'il a déchiré la droite et la gauche.
Tous les partis.
Et du coup, il y avait une vraie occasion pour la gauche de s'unir, mais depuis pas 60 jours avant le. Et je suis pas de gauche ni de droite, hein. J'ai vraiment une analyse neutre. C'est-à-dire que ils avaient une occasion en or de regagner les terrains. Ils ont perdu le cœur des quartiers dits populaires et des classes dites ouvrières. Ils ont perdu tout ça. Donc ils avaient une chance de s'unir, mais c'était en 2019 que ça se préparait. Ok, il y a le Covid, il y a tout ça. Donc Madame Taubira, prise à part, c'est une personnalité qui est respectable et même si elle est un peu clivante.
Brillante même.
Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les lois de Taubira, on aime, on n'aime pas, mais elle n'est pas neutre, elle est un peu clivante. Mais prise à toute seule, c'est une personne intéressante qui prend de la distance par rapport à la gouvernance actuelle, qui peut avoir des idées claires. Mais malheureusement, elle n'a pas d'appareil, elle n'a pas de troupes derrière et elle n'a pas le temps surtout de créer ce lien affectif personnel avec le peuple français. Donc pour
moi, je pense qu'elle se prépare pour
Redit Cassie.
je pense qu'elle se prépare pour le coup d'après, parce que là, honnêtement, quand on voit la déconfiture de la gauche, qui d'ailleurs n'est même pas représentée par les anciens candidats, n'existent plus. Il y a comme une place à prendre. Et c'est le pire, c'est que les gouvernants, en dehors de Christiane Taubira, c'est-à-dire François Hollande, Cazeneuve, Manuel Valls, etc., aujourd'hui n'ont même pas la volonté de reprendre le parti. Donc c'est comme si, leur immobilisme crée une espèce de désintérêt en ce qu'ils seraient en capacité de pouvoir recomposer cette gauche. Donc moi je pense que déjà, du point de vue des anciens responsables politiques, il y a une irresponsabilité, ne serait-ce que à vouloir transmettre un flambeau. Je pense que tout le monde a voulu jouer un peu sa partition, et aujourd'hui le parti se retrouve dans cet état.
Merci Mohamed du 95 d'avoir évidemment livrer votre point de vue. Bonne soirée, Mohamed.
Merci, au plaisir.
19h36, nous allons marquer la deuxième pause pub, la dernière, et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la dernière ligne droite, 01 53 48 3000. Je vous attends au standard. Nadir Kaya face à Rudy Kassi. Nous allons parler de la maltraitance dans les EHPAD. Justement, les familles veulent d'ores et déjà porter plainte. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est vous au 01 53 48 3000. Les informés, c'est le face-à-face avec Nadir Kaya et Rudy Kassi. Nadir Kaya qui est le président de Banlieue Plus, Nadir et Rudy Kassi qui est un élu. Hein. Rappelons-le d'ailleurs, l'élu, vous avez plusieurs casquettes. Hein.
Oui, conseiller municipal à Saint-Germain-l'Herpajon.
Oui. Et délégué des générales maintenant désormais.
C'est ça, délégué général de l'Association des élus de France.
Oh. Exactement. Ah ouais, il rigole pas le...
C'est bien.
Notre jeune élu.
Oh, soyons modestes. Ouais, nous sommes une belle association qui œuvrons pour la réconciliation.
Vous avez fait une tribune.
Oui, tout à fait.
Qui est parue
là,
dans la Croix.
Récemment, qui dénonce, on va dire, le climat nauséabond de la campagne, en tout cas telle qu'elle a commencé, telle qu'elle est un petit peu en train de changer, puisqu'on parle un peu plus de pouvoir d'achat, tant mieux, que d'immigration, etc., même si il faut pas non plus mettre de côté qu'il peut y avoir des choses à améliorer sur l'immigration, mais en faire un totem de vérité pour une campagne présidentielle, c'est pas le meilleur moyen d'unir les Français, et donc nous l'avons dénoncé au travers d'une tribune.
Exactement, on va parler de maltraitance dans les EHPAD, justement les familles qui veulent porter plainte, la maltraitance, on parle de plein de choses, notamment dans les EHPAD, le directeur général Yves Lehmann, donc justement démis de ses fonctions, ça y est, c'est fait, le directeur général donc a été démis de ses fonctions dès hier, notamment, a annoncé le communiqué, donc le groupe des maisons de retraite a annoncé un communiqué que j'ai reçu d'ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle tout de suite. Alors, et notamment, vous savez, c'est aussi l'émanation, c'est un livre au départ qui s'appelle Les Fossoyeurs, le journaliste Victor Castanet qui décide Castanet. D'enquêter, Castanet, pardon, qui décide d'enquêter, de se documenter, qui, avec des témoignages à l'appui, hein, avec des graves manquements. Alors, je vais les citer. L'hygiène, bien-être, maltraitance, exactement, auprès de ces personnes âgées. Alors, la ministre déléguée chargée de l'autonomie a annoncé avoir convoqué donc dans les plus brefs délais les équipes dirigeantes. Et donc, on va en parler, parce que là, il s'agit quand même de faits très graves. Bien. Nadir Kaya.
Non, mais moi, ce qui me désole,
très grave.
Au-delà de la situation, et puis je pense que les Français la connaissent depuis longtemps, il y a souvent des rapports comme ça qui alertent les Français sur la situation des EHPAD, et notamment sur la difficulté pour ces personnes âgées à vivre dignement. Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat-là, au-delà de rappeler qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est de se poser la question, notamment pour les personnes âgées en France, comment on les aide, entre guillemets, à finir leur vie. Moi, je trouve ça désolant pour les Français de considérer qu'un parent qui a un certain âge et qui peut être en bonne santé doit absolument finir sa vie dans un EHPAD. Je peux comprendre que pour une personne âgée médicalisée avec des besoins particuliers, oui, effectivement, dans un EHPAD.
On va demander aux auditeurs qu'est-ce qu'ils en pensent. 0153 48 3000. Je vous attends.
Il y a encore beaucoup de parents qui sont quand même en bonne santé, et malheureusement, la société fait que on incite les enfants à mettre leurs parents dans des EHPAD, et quand on voit le coût d'un EHPAD et quand on voit le résultat, c'est aussi triste, parce qu'on constate les maltraitances, les difficultés pour le personnel à travailler convenablement. Mais moi, je pense que c'est une vraie question de société, à savoir comment on peut aider nos parents à finir leur vie dignement.
Mmh. des dysfonctionnements qui sont notés justement, et vous avez cité effectivement ces problèmes de maltraitance. Aujourd'hui, avec cette enquête, cette belle enquête journalistique, hein, Rudy Cassi, 0153483000, je voudrais vous entendre, effectivement, notamment quand Nadir Kaya dit, si vous avez le choix, gardez vos parents, sinon, et si vous n'avez pas le choix, bah, bon, si pour des raisons médicales, vous pouvez effectivement voir au dernier recours ces,
oui, parce
ces choix.
Il y a
de,
des vraies questions à voir avec
dans les EHPAD. 0153483000.
Bah,
Rudy,
alors,
qu'est-ce
là-dessus, déjà, c'est vrai qu'il y a déjà un système qu'il faut dénoncer parce que on parle donc de Orpea, mais il y a bien d'autres établissements, donc d'établissements d'EHPAD qui sont aussi, qui ont été pris un petit peu aussi la main dans le sac. Et ça date pas d'aujourd'hui, ces dénonciations.
Mais ça accable toutes les maisons de retraite.
Effectivement, ça concerne toutes les maisons de retraite. Et faut le rappeler, aujourd'hui,
Orpea,
c'est quoi? C'est 1100 établissements.
1200.
Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. 62 000 salariés, c'est quand même, un établissement qui a un certain poids. Et en plus, ils sont cotés en bourse. Bon, là, ils ont demandé la suspension parce que le cours de leur bourse a chuté de façon assez importante. Et surtout le système en lui-même qu'il faut interroger parce que finalement l'État est partie prenante des EHPAD et en l'occurrence de Orpea parce qu'en fait il paye les salariés, enfin en tout cas le personnel soignant.
En tout cas il a réussi son coup, et, il a fait trembler tout le monde. Hein.
Exactement. Et derrière les bénéfices, par contre, c'est sur les bénéfices que se font une marge. Ils se font une marge exceptionnelle, hein, les établissements. Donc des pâtes. C'est ça en fait qui pose problème finalement quand ces scandales sortent, c'est de se dire en fait il y a des bénéfices qui sont importants et de l'autre côté nos aînés, nos anciens sont maltraités dans ces établissements. Donc effectivement un peu comme disait Nadir tout à l'heure, se pose la question finalement de notre modèle de société. Nous, on est français. En l'occurrence, moi, j'ai des origines africaines et en l'occurrence au Congo, la manière dont on traite les aînés, ils sont traités avec respect. Ce sont les anciens, ce sont les personnes en fait à qui on vaut un respect parfois quasi religieux. Ce qui induit en fait le fait que ce soit des personnes dont on veut prendre soin parce que un proverbe de africain dit que lorsque un ancien meurt, c'est toute une bibliothèque en fait qui brûle. Donc aujourd'hui, se pose la question de notre modèle de comment est-ce que l'on veut interagir avec les personnes âgées, comment est-ce qu'on veut les traiter, etc. Est-ce que les EHPAD finalement en soi, c'est pas un endroit où on va les parquer pour qu'ils puissent mourir parfois pas dignement, mais plutôt indignement. Même la fin de vie aujourd'hui, c'est des questions qui se posent par rapport à la valeur que l'on donne à la vie. Et finalement,
oh mais ça va loin, vous savez, c'est des personnes âgées rationnées, abandonnées dans leurs excréments, laissées dans sans soins parfois. Vous savez, pendant des jours, c'est pas pendant des heures, pendant des jours.
La manière dont on traite les personnes
âgées, rapporte le journaliste enquêteur de son livre Les Fossoyeurs.
Ça nous dit une chose de la manière dont on considère la vie, la manière dont on traite nos personnes âgées.
Je reçois un message qui va un peu dans le sens. Je reçois un message et j'attends nos auditeurs au 0153483000. Il ne faut pas laisser tout au privé, vous me dites si vous êtes d'accord. Il ne faut pas laisser tout au privé et la maltraitance se diffuse, y compris à l'hôpital. C'est vrai que c'est pas faux.
Ben évidemment. Pourquoi? Parce que, encore quand c'est dans le service public, il y a une déontologie, il y a un savoir-faire. La France est un pays qui a su développer des services publics forts, même si aujourd'hui on assiste à un recul des services publics, notamment dans la ruralité, etc. Je vous la refais pas. Mais lorsqu'effectivement on cède au privé, sans aucune garantie, alors je sais pas s'il y a eu des garanties ou pas, mais en tout cas, dans la manière dont nos personnes âgées, nos aînés sont traités, force est de constater qu'il n'y a pas un savoir-faire qui relève du service public qui, lui, est, comme son nom l'indique, service public, est obligé de se comporter d'une certaine manière. Donc là, c'est vraiment triste. Et là, il faut des sanctions. Derrière, j'ai vu que Olivier Véran a demandé une enquête de l'inspection.
Exact.
Comment ça s'appelle, de l'inspection générale. Bon, c'est des mesures
alors
que l'on est capable
déjà
de mettre
averti,
en place.
Hein, il y a beaucoup de syndicalistes dans le domaine, dans le secteur qui avaient averti des situations.
C'est un ancien médecin. Il sait très bien ce qui se passe dans les EHPAD.
Oui,
donc encore une fois, l'État se dédouane de ce qu'elle devrait faire en matière donc de gestion de ces choses-là. Pourquoi? Parce que il y a un mastodonte en face qui pèse des millions et des millions d'euros et on a du mal à pouvoir les gérer. Mais aujourd'hui se pose vraiment la question de la manière dont on traite nos aînés.
Et se croit tout permis.
Non, il faut pas oublier la période du Covid aussi a révélé ces situations de maltraitance.
Moi, j'ai de la famille qui travaille
ces personnes
en EHPAD,
qui étaient isolées, ces personnes qui pouvaient mourir toutes seules parce que sous prétexte du Covid, elles ne pouvaient pas recevoir recevoir de la visite. Donc là aussi, ça nous avait rappelé la situation.
À l'intérieur même de l'établissement.
Toutes ces personnes qui sont, je ne sais pas si vous vous souvenez des chiffres au début, il y avait, je crois, des EHPAD qui, où il y avait peut-être 50 ou 60% de la population qui était décédée sur les premières semaines. Donc ça aussi, c'était violent. Mais malheureusement, comme c'est une population...
Dans le chiffre des morts au début, hein, il n'était pas comptabilisé dans le chiffre des morts de Covid.
Mais voilà, c'est une population qui est délaissée à tous les niveaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, se pose la question de comment on fait aujourd'hui en termes de respect, en termes d'humanisme vis-à-vis de nos aînés. C'est vrai que je trouve le terme plus approprié, aînés, nos aînés, que de dire ces personnes âgées. Moi, je trouve que aînés, c'est plus louable.
C'est plus respectueux.
Et je pense que là-dessus, l'État et les personnes concernées devraient faire un vrai travail de fond. Certes, réprimer comme il se doit les EHPAD qui ne respectent pas tous les codes de déontologie et toutes les règles en vigueur, mais il faut se poser les vraies questions. Comment aujourd'hui
on peut traiter dignement nos aînés l'action
dans des établissements appropriés et avec les moyens nécessaires pour les accompagner.
Et puis il faut réfermer aussi l'accès du privé dans ces services qui sont des services a priori des services publics. Il faut regarder un peu mieux, il faut mieux encadrer, il faut voter des projets de loi qui permettent effectivement de mieux suivre la manière dont ces établissements privés gèrent la vie de nos aînés, parce qu'il s'agit de leur vie, mais il s'agit aussi de leur fin de vie aussi. Donc c'est grave, c'est lamentable en fait la manière dont les choses
se déroulent. Je vous l'accorde. Allez messieurs, nous allons traiter ce dernier sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui. Pécresse qui demande solennellement à Macron d'accepter un débat avant la présidentielle. A-t-elle raison, messieurs ? Tiens, Rudy Cassi.
Oui. Oui. Bah, évidemment.
Oui. Je sais pas, évidemment. Je pose la question.
Bah, évidemment, Emmanuel, mais le problème, c'est comme Emmanuel Macron.
Elle lui dit qu'il descend de débat dans la
reine. Candidat, parce que pour l'instant, il n'est pas encore candidat.
Officiellement candidat, la question, elle est posée. Mais moi, je pense que c'est plutôt stratégique. C'est pour pousser Emmanuel Macron à se déclarer candidat. Sauf qu'Emmanuel Macron, il tarde encore un peu parce que là, il joue la carte, effectivement, de la présidence de l'Union européenne, ce qui est une stratégie, a priori. Et en l'occurrence, même dans la tradition politique des présidents qui se portaient candidats, il y a eu plusieurs présidents qui ont mis extrêmement de temps à se présenter. Il y a eu Chirac, il y a eu Mitterrand, etc. Donc c'est vrai que ça paraît difficile de lui faire ce procès d'un retard de candidature et lui imposer effectivement ce débat. Donc de premier tour, enfin en tout cas avant le premier tour, hein, c'est un peu compliqué. Et là-dessus, je pense pas que ça réussira. Mais en tout cas, chacun est dans son rôle de vouloir que ça puisse se passer.
Mais faut pas être naïf. C'est-à-dire qu'il y a... non plus quand elle fait ça, c'est pour dégainer la première et quelque part se mettre à la hauteur du président.
C'est vrai.
Je vais dégainer la première.
En fait, c'est plutôt ça.
Donc quelque part,
je crois qu'il y a une opération de com. C'est-à-dire, je vais me mettre au niveau.
Je suis légitime, même si moi je pense qu'elle n'a pas le niveau de Macron en termes d'éloquence et de capacité à aborder tous les sujets. On l'a vu dans le débat de la primaire LR, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je pense que sur certaines questions, elle n'était pas capable de répondre.
Je pense que ça tenait à d'autres choses, parce que là, c'était un peu un
débat en famille, en interne.
Il y a moins la bagarre, entre guillemets, quoi, sur le plan...
Oui, mais là, ça aurait dû lui permettre de sortir... Bon, elle est quand même sortie vainqueur de cette situation. Mais je pense qu'elle n'a pas encore le niveau ou la capacité de faire un face-à-face avec Macron.
Intellectuellement,
vous dites non. Alors, Marine Le Pen, qui a subi ce face-à-face, elle avait quand même une stature. Je ne pense pas que Pécresse soit quand même au niveau de Marine Le Pen.
Valérie Pécresse, c'est quand même une ancienne ministre. C'est la présidente de la région Île-de-France, donc sur la gestion des dossiers.
Est-ce qu'elle a endossé justement la session présidentielle C'est la question, elle est là. C'est ce que pose Nadir Taïr.
Non, mais maintenant, dans le cas d'un débat. Un débat, c'est comme un match de foot, c'est jamais joué à l'avance. Donc, en l'occurrence, on peut pas penser que Emmanuel Macron sera forcément supérieur.
Sauf un débat, c'est soit on est dans la Ligue 1, soit on est dans la Ligue 2.
Valérie Pécresse est connue. Elle est connue et reconnue.
Selon le niveau, soit on est en Ligue 1, soit on est en Ligue 2.
D'accord, mais jouons le match déjà. Parce que quand vous regardez la Coupe de France, il ne peut pas se jouer si on n'a pas de niveau. Quand vous regardez la Coupe de France,
tu peux pas mettre un Messi en Ligue 2 s'il n'a pas de niveau.
Ils ont fait des parcours extraordinaires. Mais reprenons les choses plus sérieusement.
Oui, allez.
C'est une femme qui est connue pour bien gérer ses dossiers.
Super sérieux.
Oui, mais en dehors de la boutade, elle est connue pour être quelqu'un qui gère très bien ses dossiers. Donc, sur la connaissance des dossiers, je vois pas où serait le problème. Donc, maintenant,
essayons de voir. Mais non, après, c'est vraiment pas la même.
sur
gérer la région.
Je suis d'accord avec
certes,
toi.
Certes, une importance.
Je suis. Ben,
ça lui permet d'avoir une stature.
En l'occurrence, parmi les
mais
candidats,
là, de faire face à un président.
Parmi les candidats aujourd'hui, ouais. Il n'y en a aucun qui est en activité sur une grosse région. Je rappelle que l'Île-de-France est la première région d'Europe. Donc c'est pas. C'est
même
pas
sans être dans l'activité. Dans une activité. Moi, je reprends l'exemple qu'on prenait notamment
mais
par rapport à Taubira.
Avec toi
Taubira n'est pas dans l'activité, mais moi, je pense que elle, face à Macron, ça pourrait être intéressant.
On s'écoute parler, jeunes gens.
Valérie Pécresse, en fait, elle a fait d'Emmanuel Macron son adversaire. Pourquoi ? Parce que dans les sondages, sur les enquêtes d'opinion au premier vote, elle n'est pas loin. Je crois que Emmanuel Macron est à 54%.
Ça bouge tellement que...
54%, je crois.
Certainement.
Oui, il y a 3 points d'écart, ils n'ont pas...
Oui, voilà, il n'y a que 3 points d'écart, etc. Enfin, en tout cas, au second tour, Emmanuel Macron est donné vainqueur à 54% et Valérie Pécresse arriverait derrière à 48%. Donc, elle n'est pas loin. Donc, logiquement, elle doit forcément se poser, effectivement, en adversaire d'Emmanuel Macron. Donc, là-dessus, moi, je pense que c'est une stratégie normale et logique, en fait.
Nadir Kaya.
Non, moi je serais plus pour un débat multiple avec tous les différents candidats et des sujets bien précis que des face-à-face comme ça, on va pas s'en sortir. Et je peux comprendre que Macron, s'il se présente, n'acceptera pas ce genre de rencontre parce qu'il va pas s'en sortir. Chacun après va vouloir aussi son face-à-face.
L'intention de vote au premier tour de la présidentielle, je vous le donne tout de suite. 24 pour Emmanuel Macron, 17 pour Valérie Pécresse, Marine Le Pen pareil, Éric Zemmour 13. Non, 17, vraiment, je l'ai sous les yeux avec les courbes
c'est
et
lequel,
tout.
Celui d'aujourd'hui,
Éric Zemmour 13, Jean-Luc Mélenchon 10, après tout le reste, effectivement 5 pour Christiane Taubira, Yannick Jadot et Anne Hidalgo à 3. Voilà messieurs.
Non, mais surtout, ce qui est intéressant dans la question aujourd'hui des sondages, c'est que les sondages nous donnent une tendance d'aujourd'hui. Et en l'occurrence, au mois de novembre, je crois, dernier, Valérie Pécresse était gagnante vis-à-vis d'Emmanuel Macron au second tour.
Ouais, et puis les sondages, bon,
c'est descendu.
Il faut rappeler que c'était Macron, Marine Le Pen.
C'est descendu.
Pécresse est arrivé, maintenant elle repasse devant.
Mais quand on regarde un petit peu, on se rend compte que pour le second tour, même si Valérie Pécresse est donnée comme perdante, elle n'est quand même pas trop loin. Donc c'est pour le moment, c'est un match entre les deux. Pour le moment, et à mon avis, ça va encore durer comme ça. Pourquoi ? Parce que Zemmour, il prend des voix un petit peu
à Marine Le Pen.
À Marine Le Pen. En ce moment, il y a un match
pas
qui
que des
joue.
Voix. On
ouais,
a vu dernièrement.
Pas que des voix, effectivement.
Et pas que des voix, vous avez raison.
Il y a aussi des ténors, des anciennes figures.
On a vu avec Maigret aussi.
C'est vrai que pour le moment, il y a un match Pécresse. Macron et un autre match Zemmour Le Pen qui est en train de s'inscrire pour le moment, mais on verra bien jusqu'où ça va aller.
Eh bien merci messieurs, merci à vous, merci à Nadir Kaya, le président de Banlieue Plus, merci aux multiples casquettes à Rudy Cassi, notamment délégué général de l'Association des élus de France, avec ce coup dernier en date donc concernant la tribune que je vous invite à aller découvrir, à aller lire donc. Sur les réseaux sociaux, y compris sur Internet notamment.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Merci aux auditeurs au 01 53 48 3000. La réalisation, c'était Yanis. Tout de suite, c'est Bilal Nedman avec Time Sport de 20h à 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain. On ne lâche rien. On ne lâche rien parce que, y compris tous celles et ceux qui n'ont pas encore, qui sont indécis, et il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. Il faut commencer à peser dans l'échiquier politique. Et il faut que les quartiers populaires jouent notamment leur carte dans cette élection présidentielle et dans toutes les autres élections. À demain avec autant de plaisir. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.